Pour moi, c'est vraiment un grand plaisir d'être là aujourd'hui pour organiser et célébrer ces 75 ans de l'IAP. Alors, je vais commencer d'abord par une révélation. En fait, ce n'est pas les 75 ans de l'IAP, c'est les 77 ans de l'IAP, comme vous allez l'apprendre plus tard. Et on était parti sans se poser de questions, sur la date du cinquantenaire qui avait été fait en 1988. Donc on n'a pas été vérifié. En fait, une fois qu'on a vérifié, non, l'IAP a été fondée en 1936. Et en fait, 1938, c'est la pose de la première pierre et le premier coup de pioche pour ce bâtiment. Donc en fait, ce qu'on fête aujourd'hui, c'est les 75 ans du bâtiment. Et non, mais enfin bon, ça. On a une excuse, il y a eu une erreur précédente, donc on continue, on perpétue, c'est la propagation des erreurs bien connues dans le traitement des données. Alors, je pense que ce qui est un avantage de toutes les structures humaines, c'est qu'en général, elles vieillissent bien. C'est pas comme les hommes qui, de temps en temps, s'améliorent pas forcément en vieillissant. En général, les structures humaines, elles, peuvent bien vieillir, et je pense que c'est ce qu'a fait l'IAP. Et l'IAP a su le faire aussi en se faisant quelque chose qui est plus difficile à faire au niveau d'un être humain seul, c'est en changeant perpétuellement. Il y a une phrase qui est connue de Lampedusa qui dit que pour que rien ne change, il faut que tout change. Et c'est un peu ce qui se passe dans les laboratoires de physique, d'astrophysique. En fait, il change perpétuellement, en s'adaptant aux nouvelles thématiques, aux nouvelles personnes, aux nouveaux chercheurs qui sont dans les lieux. Ils prennent avantage des nouvelles technologies. Et donc, c'est ce qui fait la vitalité d'un organisme comme l'IAP. Et je pense que le but de cette journée, en fait, cet après-midi, c'est de justement montrer toute cette évolution et le fait que si vous ressortez de cet après-midi avec l'idée qu'effectivement, pour que rien ne change, il faut que tout change, je pense que ce sera une très bonne leçon. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les changements, mais vous les verrez, ils seront illustrés par les différents exposés. Vous allez avoir aussi un film. Donc, le programme est disponible. Vous avez trouvé, j'ai été distribué dans l'entrée. Donc, il y aura un certain nombre, une projection d'un film qui a été fait par Jean Mouette, ici présent, en collaboration avec beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont été interviewées, avec l'aide de Denis Gutleben, historien au CNRS, et aussi la collaboration de CNRS Images, qui a fourni des moyens, en particulier pour le montage et puis toute la mise en forme finale du film. Il y aura après des exposés sur les débuts de l'IAP et puis les évolutions, disons, à partir des années 80. Et puis une pause café. Donc la pause café aura lieu au deuxième étage. Et ça sera suivi après d'un exposé sur la recherche actuelle à l'IAP. Sera fait par Frédéric Daigne et puis une table ronde et les conclusions qui seront faites par Jean Chambaz, donc président de l'université Pierre et Marie Curie, et Alain Fuchs, président du CNRS. Et puis après, comme il est de tradition, il y aura des choses à boire et à manger, toujours au deuxième étage. Alors d'abord, je voulais m'excuser parce que dans ces genres de festivités, on fait des listes de diffusion, on fait des listes d'invitations, et c'est toujours le drame parce qu'on a toujours oublié quelqu'un ou quelqu'une. Donc, pour tous les gens qu'on a oubliés, je vous prie de bien vouloir transmettre nos excuses si vous les connaissez. Et puis, il y a aussi des gens qu'on a invités et qui ne peuvent pas venir, et en particulier, il y a deux personnes j'aurais bien aimé avoir aujourd'hui. Donc, Jean-Claude Péquer, qui est un des directeurs de l'IAP, et qui, en fait, pour des raisons de santé, ne peut pas venir. Mais il m'a envoyé un texte en me demandant de le lire, donc ce que je ferai avant l'exposé de Suzy pour peut-être garder un ordre chronologique. Et puis Francis Bernardo, donc, qui est, comme vous savez, le futur directeur de l'IAP à partir du 1er janvier. On peut peut-être lui laisser jusqu'au 2 janvier pour prendre ses fonctions. Et qui malheureusement est au Japon et n'a pas pu se rendre disponible. Donc je le représenterai pour parler un peu de l'avenir de l'IAP lors de la table ronde. Mais rassurez-vous, je me suis entendu avec lui. Je ne dirai pas des choses complètement orthogonales à ce que lui voudra faire. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je pense qu'on peut commencer. Et puis par la projection de ce film.
C'est le 6 janvier 1938, sur le terrain de l'Observatoire, qu'est donné le premier coup de pioche pour la construction du futur Institut d'Astrophysique de Paris, ou l'IAP pour les habitués. Il est aujourd'hui un laboratoire de recherche du CNRS et de l'Université Pierre et Marie Curie. Environ 160 chercheurs, ingénieurs et techniciens s'y emploient à produire, chaque année, 200 articles de science. Les travaux qui y sont conduits portent sur les domaines de pointe de l'astrophysique, depuis la recherche de planètes extrasolaires jusqu'aux origines de l'univers. Comme beaucoup d'autres institutions nées au siècle dernier, l'IAP a dû faire preuve dès le début d'une solide capacité à se remettre en question et à évoluer. Son géniteur, Jean Perrin, prix Nobel de physique en 1926, est sous-secrétaire d'État à la recherche du gouvernement du Front Populaire. Il sera 3 ans plus tard le créateur du CNRS.
Toute nouveauté vraiment utile à l'homme ne peut être obtenue que par la découverte des choses inconnues, poursuivies sans aucune préoccupation utilitaire. Ce n'est pas en désirant lutter contre le cancer que Marie Curie et Pierre Curie ont fait leurs immortelles découvertes, trouvant le polonium, le radium, et par là toute la suite de ces éléments imprévus et fragiles, dont chaque atome émet en se brisant l'éclair mystérieux qui, parmi toutes ses propriétés, se trouve avoir celle d'agir sur la matière vivante.
Ce qui me paraît important de rappeler, c'est que ce qui s'appelait à l'époque le service d'astrophysique, il a vu le jour dans un contexte quand même très particulier, un contexte de réflexion intense autour de la place de la recherche scientifique en France. Alors ce contexte, c'est celui des années 36-38, donc année du Front Populaire, année où un grand savant de l'époque, Jean Perrin, est appelé au sous-secrétariat d'État de la recherche scientifique. Il est appelé par Léon Blum. Et il est placé sous la tutelle du ministre d'Éducation nationale, Jean Zay. Et c'est une époque où se met en place tout un dispositif de soutien et de coordination de la recherche scientifique en France, un dispositif qui n'existait pas du tout avant ça. Le point fort de l'IAP à l'époque, c'est justement cet aspect de refléter l'Organisation nationale de la recherche. Et ce qu'essayait de faire Jean Perrin au travers de ces structures nationales, caisse nationale puis centre national de la recherche scientifique, c'était en fait créer un nouvel espace pour le développement de recherches prometteuses, de recherches nouvelles, et puis aussi de recherches qui étaient situées à l'interface de plusieurs disciplines, hein, créer ce qu'on appelle aujourd'hui l'interdisciplinarité. Et bien, elle pouvait pas s'exprimer dans l'université française parce que c'était vraiment un milieu très figé, d'où l'intérêt de créer un nouvel espace.
Je suis arrivé à l'IAP en 1946. C'était tout neuf. C'était même pas fini. J'avais à l'époque envisagé de faire une thèse sous la direction de Kassler. J'étais allé voir Casser, mon vieil ami Casser, le vieil ami de mes parents. J'étais allé le voir, j'ai dit, monsieur, je voudrais bien faire ma thèse avec vous. Il m'a dit, mon cher ami, je n'ai plus d'idées. Alors, c'est après qu'il a eu les idées qui lui ont valu le prix Nobel, en effet. Je n'ai plus d'idées, alors je ne peux pas diriger un jeune homme comme vous. Allez, en ce moment, c'est l'astrophysique qui démarre. C'est vraiment un domaine d'avenir. Il faut faire de l'astrophysique. Allez donc voir Chatman.
La difficulté avec la recherche fondamentale est que l'activité de recherche, pour le chercheur passionné et désintéressé, est avant tout une activité ludique. Il n'y a pas de succès possible de la recherche fondamentale si le chercheur ne prend pas plaisir à sa recherche. En fait, on retrouve le même plaisir chez celle ou celui qui crée une œuvre, quelle qu'elle soit.
Chatzman avait été nommé professeur avec Cher, je crois, en 1957, et donc il enseignait l'astronomie, et puis il créait autour de lui une équipe qui a été la première à faire de l'astrophysique théorique en France.
Oméga est la fréquence imposée par, dans le cadre de Rachel Nicholson.
Donc, il recrutait des gens en leur donnant à chacun un thème de recherche qui était différent des gens d'à côté. On discutait un peu entre nous et surtout avec Chatzman qui dominait tout ça, mais enfin, on se dirigeait quand même beaucoup tout seul. Chatzman m'avait lancé sur l'étude du Soleil, et en particulier, il m'avait demandé d'essayer de comprendre le mécanisme des éruptions solaires. Alors, c'est pas un mécanisme simple, puisque à l'heure actuelle, il commence à être bien compris, mais c'est vraiment assez récent. Alors, au bout d'un certain temps, je suis partie dans une direction un petit peu différente, et j'ai décidé de me brancher sur un sujet qui est devenu très à la mode en 1964, et c'était les quasars qui venaient d'être découverts. Donc, voilà comment j'ai été amenée à un sujet que j'ai pratiquement continué toute ma vie après.
En tout cas, moi je trouve que ce livre, on devrait en rendre la lecture obligatoire dans toutes les terminales.
Ah, je suis absolument d'accord.
Ah, vous êtes d'accord? Parce que c'est incroyable.
C'est exactement le genre
de choses. Donc, il n'y avait jamais rien compris à tout ça, les galaxies, absolument. Les planètes,
l'atome. On voltige là-dedans, on nage.
C'est formidable. J'aime beaucoup la dédicace. Ce livre est dédié à tous ceux que le monde émerveille. Je pense que vous êtes toujours, comme le professeur Jacob, toujours émerveillé par le monde.
Ah oui, ça, effectivement. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire passer dans ce livre. C'est que plus on le regarde, plus on est étonné, émerveillé par tout ce qu'il y a dans cet univers. J'ai voulu un peu faire passer ça, un peu contrairement justement à une certaine tendance réductionniste qui consiste à dire « tout n'est que ». Vous savez, la position réductionniste, vous ramenez tout à quelque chose d'autre. Je ne suis pas contre le réductionnisme. Je pense que c'est une phase importante. On ne peut pas faire de science si on ne réduit pas à un certain moment donné. Mais ce qui est essentiel, c'est de ne pas s'en tenir là. C'est après de prendre du recul et de revoir à distance les grands traits.
J'étais étudiant en physique nucléaire. Je fais mon doctorat aux États-Unis. Et puis ensuite, j'ai été embauché par la NASA à New York, où il y avait la préparation des expériences spatiales et tout ça. Et moi, je travaillais sur des problèmes d'origine des éléments chimiques. C'était la grande période après qu'Hans Bethe a montré que le Soleil avait une énergie nucléaire, que les atomes étaient fabriqués dans les étoiles et tout ça. Et notre tâche, c'était de pouvoir identifier quel type d'étoile avait fabriqué tel élément chimique, carbone, oxygène, etc. Tout ça, ça s'est fait donc dans les années 1940 jusqu'à 60 à peu près. Et donc, je travaillais sur un modèle particulier, mais il manquait des données. Il fallait des données de physique nucléaire pour essayer d'apprendre un peu plus à identifier l'origine de ces éléments chimiques. Et tous les endroits que j'ai vus aux États-Unis m'ont dit: personne ne voudra faire cela, bien qu'on reconnaisse que ce soit très intéressant, parce que ce n'est pas possible pour un laboratoire de rester plusieurs années sans résultat. La préparation des expériences, ça peut prendre du temps. Pendant ce temps-là, on ne publie rien. Et c'est à ce moment-là que René Bernas, physicien nucléaire à Orsay, Evry Chatzman, astronome, et Pecker, on dit « c'est une bonne idée, on va le faire venir ». Et ils m'ont donc obtenu un poste au CNRS et puis à l'université. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé un beau jour dans les bâtiments de l'IAP.
En 76-77, il a été question de chercher un directeur à l'IAP. Moi, j'étais un jeune maître de recherche et j'étais pas premier de la liste. Mais finalement, bon, c'est arrivé sur moi et donc je suis arrivé ici avec Jean-Loup Puget comme sous-directeur et avec Claude Rivin comme administrateur que j'ai choisi juste avant d'arriver en 1er février 1978. Au fond de moi-même, je me demande pourquoi j'ai voulu être directeur. Je sais pourquoi j'ai voulu être directeur. C'est qu'en fait, j'aime pas tellement la hiérarchie. Je me suis dit que en étant directeur, ben, au moins, on m'imposerait moins de contraintes que si je l'étais pas. Voilà. Je revendique deux choses. C'est d'une part, véritablement, d'avoir accentué le caractère international de l'IAP. Il y a eu cette politique des postes rouges dans les années 80 qui nous a permis d'inviter, pour des périodes de longue durée, des gens de grand talent. Et donc, très vite, les chercheurs étrangers, italiens, américains, britanniques, etc., sont venus. Et puis, au moment où je suis arrivé, on faisait de l'instrumentation à l'Institut d'Astrophysique. Il y avait beaucoup de techniciens, ingénieurs. Alors évidemment, toute cette partie-là a décru. Par contre, ce qui a cru, c'est principalement le développement de l'informatique à l'IAP date vraiment de la deuxième et troisième partie de mon mandat, vous voyez. Et je pense que ça a été une évolution, je pense, assez heureuse parce que, effectivement, on ne pouvait pas rivaliser en matière instrumentale avec d'autres laboratoires. On n'était pas en capacité de le faire.
Quand je suis commencé ici, c'est une belle étoile. Mais après l'élection de Audus et plusieurs autres, dans les derniers 30 ans presque, maintenant, je trouve que c'est un mélange de chercheurs qui est vraiment l'équivalent de leur endroit dans les États-Unis. Qu'est-ce que c'est l'origine de la matière, l'origine de la matière noire, l'origine de l'énergie noire, qu'est-ce que c'est notre place dans l'univers, est-ce que la vie est partout dans l'univers ou non, il y a des autres univers autour de nous, on ne sait jamais, la théorie dit oui peut-être. Et pour réfléchir sur ces questions, ça prend du temps. Et si on doit publier toujours dans les prochains 10 jours, on n'a pas le temps pour réfléchir. Alors j'ai commencé à réfléchir un peu sur ces choses.
Il y a plusieurs missions finalement pour le personnel de la recherche, l'amélioration des connaissances, la production des connaissances, mais aussi effectivement la diffusion des connaissances scientifiques vers nos concitoyens. Et à l'Institut d'Astrophysique, il y a une très longue tradition. Alors je vais rebondir à 25 ans en arrière, puisqu'on avait fêté les 50 ans de l'IAP, et on avait développé avec Jean Douze à cette époque de très grandes manifestations. Et depuis, l'Institut d'Astrophysique s'est toujours beaucoup impliqué dans la diffusion, que ce soit vers le scolaire ou vers le grand public. En fait, qui vont devenir des. Et puis, d'une façon plus générale, les chercheurs de l'IAP sont très impliqués dans des interviews, dans des rédactions d'articles, dans des journaux de différents et variés, rédactions d'ouvrages. Et nous y attachons beaucoup d'importance parce qu'on sait qu'il y a une déficience des jeunes vers les sciences exactes dans les études supérieures. Et nous espérons pouvoir les motiver de cette façon-là et apporter des jeunes vers des études scientifiques.
début des années 2000, le groupe de physique théorique qui travaillait à Meudon a décidé en fait de se déplacer en partie à l'Institut d'astrophysique de Paris. Moi, j'étais en poste à Orsay à ce moment-là, et au bout de quelques années, en fait, j'ai rejoint ce groupe parce que thématiquement, c'était plus intéressant pour moi en fait d'être dans un laboratoire, pas simplement de physique théorique, mais aussi dans un laboratoire. Il y avait un groupe de physique théorique, mais où on était en connexion et en contact avec des gens qui faisaient des observations, en particulier celles du satellite Planck, les lentilles gravitationnelles, et ainsi de suite. Donc, ce qui permettait en fait d'alimenter les recherches en physique théorique sur la cosmologie. Je pense que l'IAP, c'est vraiment un laboratoire de classe internationale pour ça, c'est-à-dire que il a l'avantage d'avoir une couverture thématique sur les disciplines de l'astrophysique qui est très très large. C'est quand même un institut qui va des exoplanètes jusqu'à la physique théorique de l'univers primordial. Où ça, c'est quelque chose qu'on trouve très peu dans d'autres instituts. Par exemple, si on va dans une université américaine, ça va être, on va avoir des experts sur certaines thématiques, mais on va pas avoir ce continuum de thématiques comme on l'a ici. Et puis, avec des chercheurs qui sont aussi reconnus internationalement et des grands projets, ce qui fait que ça donne vraiment un endroit qui a une très très grande force au niveau international et une grande visibilité parce que c'est pas simplement des chercheurs, mais c'est des chercheurs, beaucoup, qui portent des projets comme Euclide, comme Planck. Et donc, le fait qu'il y ait ces projets, ça crée de la dynamique autour de ces projets et donc ça fait que des gens viennent à l'IAP régulièrement pour travailler sur ces projets et permettre de rencontrer d'autres chercheurs.
Fois où j'ai senti une réaction, disons, de gens qui ont exprimé un peu de fierté de ce qui avait été fait sur Planck, au moment de la sélection, par exemple, et je crois qu'il y avait des gens qui étaient quand même un peu contents du rôle que collectivement a été joué par la maison, et plus particulièrement l'aide spécifique de gens qui sont dans l'administration, dans les services techniques, qui ont aussi apporté leur pierre, y compris quand c'est un projet très long et où on ne voit pas toujours tout ce que tout le monde a fait, mais bon. Donc ça fait partie des bons moments dans l'histoire de la maison. Ben, on a vu quand même tout le déploiement, y compris sous forme d'engagement comme centre de traitement de données, que ça soit sur Fuse, qui était quelques personnes, mais qui était quand même quelque chose d'assez nouveau, puis Therapix, qui a aussi devenu un centre national, et puis Planck, qui n'est pas national, mais qui est international d'une certaine manière, puisqu'on est centre de coordination de l'ensemble du traitement des données, de HFI, l'instrument HFI de Planck, sur lequel repose une très grande partie de la science de Planck. Et là, il a fallu construire un centre de traitement de données. On a fini par faire une salle machine avec une série de machines. On a fait ça en plusieurs fois. On a commencé par une petite, puis un peu moins petite, etc. La machine actuelle est une machine qui est de l'ordre de, enfin, disons, on va dire moins de 2 millions d'euros. Tout ça avec une équipe technique qui n'est pas celle d'un centre de calcul comme celui de l'INDEP3 ou du CNRS. Essentiellement, il y a un système administrateur en tout et pour tout pour centre de calcul.
Grâce à Planck, en fait, on a maintenant un scénario relativement bien consolidé qui décrit l'univers et son expansion. Euclide est aussi une mission qui va accaparer beaucoup de monde pendant une quinzaine d'années à l'IAP, qui va aussi cartographier une énorme partie du ciel, mais à la différence de Planck, on va s'intéresser à l'univers que je dirais proche, en fait, c'est-à-dire les derniers 10 milliards d'années de l'histoire de l'expansion. Et plutôt que d'observer cette transition univers opaque, univers transparent, eh bien cette fois on va observer les galaxies, on va observer les propriétés de ces galaxies, comment elles se distribuent dans cet univers, comment elles se sont progressivement agglutinées les unes aux autres à cause des effets de la gravitation, et simultanément comment elles ont été déformées par la présence de matière noire qui engendre des effets de lentilles gravitationnelles. Et donc cette fois-ci, on va s'intéresser non pas à ce continuum, ce fond diffus cosmologique, mais vraiment aux galaxies. Et grâce à ces galaxies, eh bien, on va pouvoir accéder non pas simplement à l'histoire de l'expansion de l'univers, mais aussi à l'histoire de la croissance des structures, comment elles ont évolué, et déterminer l'histoire de l'accélération de l'expansion de l'univers et quelle est la nature profonde à la source de cette accélération. Donc ces deux missions, finalement, elles sont parfaitement complémentaires dans leurs objectifs et elles sont complètement en phase dans le temps, puisque au moment où la mission Planck va se terminer, c'est-à-dire relativement dans 2 ou 3 ans, eh bien on va lancer Euclide qui commencera, elle, à faire la cartographie du ciel pour déterminer les propriétés de l'énergie sombre.
En 2005, on a eu la chance, grâce à la technique des micro-lentilles gravitationnelles, de découvrir la toute première super-Terre, c'est-à-dire une planète de 5 masses terrestres, froide, située autour d'une étoile de faible masse. Toutes les observations qui ont été faites d'exoplanètes actuellement montrent que les planètes, c'est quelque chose de très très courant dans la galaxie, et on s'attend à, en moyenne, au moins une planète par étoile. Ce qui donne évidemment des perspectives extrêmement intéressantes pour penser le problème de la vie dans l'univers. Premier contact avec l'astronomie vulgarisée, ça a été comme beaucoup les livres d'Hubert Reeves, qui m'ont beaucoup impressionné quand j'étais au lycée. Et c'est à la fois ce côté poétique de la science et en même temps son côté analytique qui m'ont attiré, qui répondait à la fois à des aspirations plus philosophiques, mais aussi très scientifiques et très opérationnelles d'un certain point de vue.
Ma thèse portait sur les rayons cosmiques de l'ultra-haute énergie. C'est toujours ce sur quoi je travaille, qui sont des particules qu'on reçoit sur Terre, des particules comme des protons, des noyaux plus lourds, qui nous arrive avec des énergies absolument colossales, de l'ordre d'une centaine de joules. Alors ça, c'est l'énergie d'une balle de fusil confinée dans une particule subatomique. C'est vraiment des énergies qu'on ne peut pas reproduire sur Terre. Et la question qu'on se pose, c'est d'où viennent ces particules? Et malgré des décennies de recherches, à la fois théoriques et expérimentales, on ne sait toujours pas d'où ces particules viennent. Moi, je fais partie d'une équipe qui s'appelle le GRECO, Gravitation et Cosmologie, où il y a beaucoup de théories, en fait. Mais on a aussi pas mal d'échanges avec l'équipe Haute Énergie, qui travaille sur des phénomènes violents de l'univers. En général, en fait, oui, j'ai des interactions avec tout le monde, avec des gens de l'équipe Galaxie, Extragalactique, même avec des gens exoplanètes. Enfin, en tout cas, probablement j'ai une vision naïve de la chose parce que je suis pas là depuis très longtemps, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas un réel cloisonnement entre ces groupes et c'est ça qui est aussi très agréable.
Je remercie aussi beaucoup Denis Gutlebon, historien au comité pour l'histoire du CNRS, qui a participé aux interviews, et Laurent Vigroux pour sa confiance et pour m'avoir fait l'honneur de me demander de réaliser ce documentaire. et qui m'a laissé une totale liberté pour le faire. Et je vous demande d'être indulgent avec la qualité de la projection, c'est pas une salle de cinéma, d'une part, et puis d'autre part, je me rends compte que les titres sous les gens sont un peu petits quelquefois, il faudra que je refasse une version avec des titres un peu plus gros, un peu plus visibles. Voilà, et je laisse la parole à Jean.
Bien, bonsoir à tous et félicitations évidemment à Jean Mouette que j'ai eu le plaisir de recruter en 1984 lorsqu'à l'époque les directeurs d'instituts du CNRS avaient le loisir de recruter les ingénieurs techniciens administratifs. Je crois que ça a un peu changé, mais à cette époque, eh bien, je considère que vous avez vu, j'ai eu du nez. Alors, félicitations pour ce film que je vais me permettre une seule. J'ai relevé qu'une seule erreur. Apparemment, mais c'est Laurent qui me l'a soufflé. C'est pas 200 publications par an, mais il paraît que c'est 280 publications par an. Donc, alors, Laurent a indiqué que en 1988, nous avions fait une erreur. Je conteste absolument le terme d'erreur parce que 1936, c'est l'existence virtuelle de l'IAP, c'est-à-dire c'est une ligne dans un décret. Mais 1938, c'est véritablement la naissance du bâtiment dans lequel nous sommes. Et je suis personnellement sensible au lieu. Vous êtes ici dans un lieu historique. Pendant des dizaines d'années, eh bien, les générations successives d'astrophysiciens ont suivi les cours. Il y a eu Schatzmann et bien d'autres. Il y a eu non seulement l'astrophysique, mais il y avait aussi la physique des plasmas à l'époque, dans les années 60, avec Denis et Delcroix. Ça a été aussi le lieu où les différentes générations de doctorants ont passé leur thèse. Donc c'est véritablement un lieu important et bien par extension, évidemment, l'ensemble de l'IAP. Alors, ce que je voulais signaler par là, c'est que l'Institut d'astrophysique n'a pas été seulement un lieu où on a fait de la recherche et de l'excellente recherche grâce aux grandes figures qui ont travaillé ici, mais ça a été aussi un lieu d'enseignement et c'est toujours d'ailleurs un lieu d'enseignement important dû au rattachement de l'IAP à l'université Pierre et Marie Curie. Le deuxième point que... Alors, évidemment, un film, c'est une demi-heure, et donc certains noms n'ont pu être prononcés, en particulier la succession des directeurs. Le premier directeur, cet amphithéâtre lui est dédié, c'est Henri Mineur. Il a été directeur pendant deux périodes successives qui se sont interrompues pendant une période pendant laquelle il était actif dans la résistance. Et c'était Daniel Challonge qui a exercé l'intérim pendant une certaine période pendant la guerre. Ensuite, il y a eu deux directeurs qui n'avaient pas leur bureau ici, André Dangeon et André Lallemand, qui est le père de la caméra électronique. Puis Jean-Claude Péquer, en 1970, ensuite c'est moi en 1978, et à partir de 1990, donc il y a eu Alain Aumont jusqu'en 1997, Bernard Faure de 1997 à 2005, et puis maintenant Laurent Vigroux qui va donner bientôt, ce sera Bernardo qui va lui succéder. Je voulais simplement aussi indiquer que ce lieu, pourquoi je suis attaché au lieu, parce que si l'IAP est devenu un lieu international, c'est un peu en raison de sa localisation. On est ici, alors ça a été une phrase qui a été chantée parce qu'elle était jugée trop vulgaire ou trop pas assez intéressante. En tout cas, je la redis. Ici, nous sommes à côté de la place d'Enfer Rochereau, à l'arrivée au terminaux à la fois de Charles de Gaulle et d'Orly. Et donc, je veux dire, c'est un lieu qui est facile d'accès pour les étrangers, d'où, je pense, l'origine de sa vocation internationale. Alors, vous savez que depuis quelques jours, François Englert est avec Higgs a le prix Nobel, et vous avez vu la dernière phrase de Jean Perrin, à savoir que de l'importance d'étudier l'infiniment petit et l'infiniment grand. Alors, je voudrais rectifier un bruit qui est propagé principalement par l'IN2P3, à savoir que l'astroparticule est née au début des années 2000. Alors, je dois dire que ce n'est pas vrai. C'est ici même que les choses ont commencé, à l'instigation du directeur général du CNRS de l'époque, qui s'appelle toujours Pierre Papon, et qui nous avait confié de réfléchir au rapprochement de la physique nucléaire, de la physique des particules et de l'astrophysique. Et donc, il y a eu beaucoup de choses, des écoles d'été, les rencontres de Morion avec Tran Tan Van, et puis un colloque à Cargès en 82. Et je dois dire que pendant le reste des années 80, il y a eu une énorme résistance de la part de la communauté des physiques des particules, qui ne voulait absolument pas entendre parler des astrophysiciens, qui considéraient comme des rigolos. Et donc, heureusement, il y a donc deux polytechniciens qui ont réussi malgré tout à commencer au début des années 90 à s'investir dans l'astroparticule, à savoir Michel Spiro et puis Alfred Vidal-Majar, qui ont cherché ce qu'on appelait, c'était l'opération Eros, cherchant les WIMPs, c'est-à-dire les particules massives, mais difficile à détecter. Et donc, voilà, si maintenant on sait que l'astroparticule connaît de très grands succès, et je pense que l'IAP a joué son rôle dans cette affaire. Alors, pour terminer, j'ai eu la chance donc de faire à peu près toute ma carrière ici, d'avoir été l'élève d'Hubert Ries et d'Evry Schatzmann, et puis donc pendant un moment d'avoir dirigé cette maison, puis j'ai fait d'autres choses, mais je peux dire que de toutes les, disons, tous les moments de ma vie, d'avoir été le directeur de l'IAP, c'est certainement le meilleur. Merci.
Merci Jean, et puis pour continuer cette filiation, je peux rappeler que j'ai fait ma thèse avec Jean Audouce comme directeur. Donc, vous avez pu voir donc le beau film de Jean. C'est pas la seule chose que nous avons organisée pour ces 75 ans. Vous avez vu dans le hall, mais aussi vous pouvez aller voir au fond du couloir toute la partie cosmologie. Il y a une exposition qui a été préparée. Donc, je voulais remercier Jean-Pierre Maillard, je ne sais pas s'il est quelque part, qui a un peu chapeauté l'organisation de cette. Ça n'a pas été une mince affaire, parce que ça, quand on fait ce genre de choses, on a toujours des problèmes un peu avec la susceptibilité des gens, avec l'organisation, avec le temps, avec, bon, bref, c'est les gens qui ont fait ça savent de quoi je parle, et donc je voulais le remercier. Il y a aussi un petit livre qui a été fait, donc c'était là, essentiellement fait sous la responsabilité d'Elisabeth Vangioni et de Jean-Philippe Puzan, que je voulais aussi remercier. Donc ce livre est à votre... Vous pouvez en prendre. S'il n'y en a plus, il y en a encore d'autres. Donc, vous avez au moins le droit d'en prendre un chacun, ce qui est fait pour. Donc avant de passer la parole à Suzy, je voulais lire le petit mot qu'avait préparé Jean-Claude Péquer. Donc, que vous avez vu dans le film, donc, qui était le directeur de l'IAP dans les années, au début des années 70. Donc, chers amis, je regrette de ne pas pouvoir être parmi vous en ce jour anniversaire. Je n'ai pas connu l'IAP lors de sa fondation, il n'était pas alors dans ses murs, et pour cause. Installé à l'Observatoire pour partie, l'équipe d'Henri Mineur, et à l'École normale pour une autre partie, l'équipe de Daniel Challonge, ce n'est qu'en 1946 que les chercheurs du CNRS s'installèrent dans les murs encore humides de peinture du boulevard Arago, où Daniel Barbier les rejoignit. Je pense être le seul survivant de cette année-là, l'année 1946-1947, année sinon de fondation, du moins d'installation. L'année suivante, octobre 1947, ce fut l'arrivée de Raymond Michard et de Lucienne Divan, qui revenaient chez Challonge, avec qui elle avait travaillé à son diplôme d'études supérieures. Comme moi, ces deux vieux amis s'émerveillent sans doute encore de ce que l'astrophysique devient quotidiennement, à l'IAP notamment. Quel superbe souvenir n'ai-je pas gardé de cette année 1946-1947, libérée de la préparation de l'agrégation. Avec Evry Schatzmann, mon mentor et comme mon frère, je me lançais dans la théorie. Mais à l'époque, les chercheurs du CNRS étaient astreints, et je crois que c'était une très bonne chose, à des travaux d'intérêt collectif. C'était leur nom officiel. Et c'est comme leur nom officiel, donc au service de la collectivité. C'est dans ce cadre que je fus chargé par Daniel Challonge, et en collaboration avec Roger Pétureau, de l'étalonnage des lampes étalons avec un corps noir prêté par le professeur Kienle. Avec notamment Daniel Challonge et Paul Couder, ce fut aussi un mois d'observation au Jungfraurock en septembre 1947. Devait alors se joindre à cette équipe Perrine Dumézil, devenue depuis Pierrine Curien. C'était alors la joie de découvrir la naissance d'une véritable explosion en France, d'une science qui n'était guère encore développée, l'astrophysique. Nous apprenions tout. Songez qu'alors on pouvait chaque mois lire l'intégralité de l'APJ, des MNRAS et des annales d'astrophysique. De petites revues. Autour des anciens, Mineur, Barbier et Challonge et du jeune Schatzmann, les équipes florissaient. Mineur, déjà très affaibli par les épreuves de la guerre, ne dirigeait guère l'IAP et il laissait à Fauvet, son administrateur, toutes les tâches administratives et s'occupait avec Maillot de dynamique stellaire. Barbier avait développé autour de Gilbert Veil une équipe de géophysiciens. Vigroux, alors je précise, c'est pas moi, étudiait l'ozone atmosphérique dont l'opacité gêne tant les spectrographistes. Kourganov revenait de Norvège avec le manuscrit de son livre sur le transfert radiatif. Des services importants aidaient les chercheurs. Une armada de calculatrices travaillait pour nous tous. Je me souviens de Mademoiselle Sapin, notamment, qui effectuait à la main, avec une table de logarithme et sans même une vieille machine à calculer, de longs et fastidieux calculs. Il y avait un atelier de mécanique, où Durghetto fabriquait les spectrographes utilisés par Challonge, un atelier de menuiserie, où Collange construisait les supports et bien d'autres appareils. Et surtout, avec Baillet, un atelier de conception et d'optique, où fut mis au point, entre autres, le fameux spectrographe à oscillation de Challonge, que vous pouvez le voir, il est exposé dans le hall. Et du côté de Schatzmann, comme de celui de Challonge, on s'ouvra à la collaboration internationale, surtout avec les pays scandinaves, Tandberg Hansen, Wildt, Ruud Jobbing, De Jager, Tuominen, entre autres, firent à l'IAP de longs séjours. Plus tard, après la loi d'orientation d'Edgar Faure en 1969, je fus le premier directeur élu de l'IAP, chargé de mettre en l'œuvre cette loi imparfaite. Ce fut une expérience bien différente de celle des débuts, mais très enrichissante. Je m'en voudrais de dire plus long. Ce que je veux dire, c'est que ma grande confiance dans l'avenir de l'astrophysique en France, à tous ceux que j'ai connus et qui sont toujours mes amis, je souhaite une vie aussi riche que le fut la mienne dans cet environnement si fécond. Et aux jeunes équipes qui travaillent ici aujourd'hui, j'adresse tous mes vœux pour un avenir brillant et productif. Et rendez-vous en 2038. Bon vent à l'IAP.